Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, on file à Mobilette dans Lyon. Ensuite, on rencontre une jeune chef d'entreprise qui a eu 1000 vies et on observe la construction de parcs à bout qui partent depuis l'île de Groix en Bretagne vers le monde entier. Mais commençons donc par l'actu de ce mardi 21 mai. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier. Bonjour à tous.
La nouvelle est tombée hier soir tard. La justice a décidé de la reprise des traitements pour maintenir en vie Vincent Lambert.
Et de fait, les traitements ont repris et de nouveau, la famille s'affronte et se déchire. Les parents qui demandait de le maintenir en vie, sa femme, son neveu et 5 frères et sœurs qui dénoncent un acharnement thérapeutique. On va entendre les arguments.
On va passer par Belfort où des centaines de personnes ont manifesté ce matin pour dire leur crainte d'un vaste plan social chez General Electric.
Par le Luxembourg, pour les élections européennes, le petit pays s'intéresse plus aux élections que les Français et notamment les départements et territoires d'outre-mer. On va le voir avec Nicolas Ballu.
On va se souvenir de Niki Lauda, le rescapé d'un accident terrible de Formule 1 dans les années 70.
Il est mort à l'âge de 70 ans.
Et on passera par Roland Garros parce que le tournoi a commencé en attendant les stars. Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Et c'est le énième rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. La cour d'appel de Paris a ordonné le rétablissement des traitements visant à le maintenir en vie. Des traitements interrompus le matin même.
Pour l'épouse de Vincent Lambert, son neveu et 5 frères et sœurs, la poursuite des traitements relève de l'acharnement thérapeutique. C'est le neveu qui s'exprime, François Lambert.
Je suis totalement abasourdi, j'en reviens pas. Enfin, voilà. C'est du sadisme pur, moi je comprends pas qu'on puisse être aussi barbare avec son fils sans jamais se poser la moindre question, de savoir si éventuellement peut-être qu'il y aurait parmi tous ses proches de Vincent, il n'y aurait pas quelques personnes qui peut-être auraient un petit peu raison de penser ce qu'ils pensent par exemple. On est tous à la base dans le réflexe du côté de la vie, c'est normal. Sauf que eux ils y restent et tout ce qui n'est pas eux n'est pas normal. Quoi. Voilà, sauf qu'il y a peut-être un cheminement intellectuel de la part des autres. Et s'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut arrêter les traitements de Vincent, c'est peut-être pas parce qu'ils sont naturellement du côté de la mort, c'est peut-être qu'ils ont fait une réflexion tout simplement. Et que peut-être que les parents de Vincent pourraient essayer aussi à leur tour de faire une réflexion au lieu d'agir comme ils agissent. Quoi.
Les parents de Vincent Lambert sont arrivés au CHU de Reims dans la matinée. Un ami d'enfance de Vincent s'est exprimé.
Après cette décision, il est temps, dit-il, que Vincent trouve sa place dans un établissement adapté. Emmanuel Guépin.
Je milite, moi, pour le transfert de Vincent dans un établissement spécialisé. Comme il en existe plusieurs en France, on a des médecins spécialisés dans ce domaine qui accueillent et qui suivent ces personnes polyhandicapées, polytraumatisées. Ça changerait que Vincent ne serait pas dans une unité de soins palliatifs où on accompagne les gens vers la mort, mais il serait accueilli dans un centre de soins adapté à son état. Il serait stimulé, pris en charge dans son état. Ses parents, sa famille pourraient faire un projet de vie autour de sa personne, son avenir.
On a découvert ce chiffre ce matin donné par le Comité Consultatif National d'Éthique.
Seuls 13% des Français ont rédigé leur directive anticipée concernant leur fin de vie comme prévu dans la loi depuis 2005 et confirmé en 2016. Ce document daté et signé doit permettre aux médecins, le moment venu, de prendre leur décision sur les soins à donner si la personne ne peut plus exprimer sa volonté.
Plusieurs centaines de salariés de General Electric à Belfort sont mobilisés pour le maintien de l'emploi sur les sites de Belfort et Bourogne.
Ils craignent 800 à 1000 suppressions d'emplois, ce serait quasiment la moitié des effectifs pour le fabricant de turbines à gaz, Nicolas Willem.
La foule marche devant le convoi, mais ce n'est pas un enterrement. Les salariés veulent simplement exprimer leur fierté de fabriquer ce type de turbine de 800 tonnes de plus de 100 mètres de long. Jean-Luc est venu pour soutenir son gendre et un cousin qui travaille chez GE.
Qu'on se regroupe, qu'on se tienne la main, c'est vraiment important. Comme on dit, il y a la fumée qui est là et à un moment donné, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. C'est inquiétant quand même.
Des trains klaxonnent au passage du convoi en signe de solidarité. Des ex-Alstom sont là également, comme Daniel, qui suit le cortège à vélo.
Moi, j'ai travaillé sur les trains. Là, en fait, pour des histoires d'actionnaires qui, eux, ne connaissent sûrement rien dans ce travail, ils décident de sacrifier la vie, justement, de ces travailleurs. C'est nous qui fabriquons toutes ces richesses.
La menace de l'emploi sur Belfort, c'est une menace sur tout le territoire de Belfort.
Belfort, c'est 140 ans d'histoire industrielle. Pas question que cela change, enchaîne un autre représentant syndical. Les GE sont prêts à se battre, à l'image de Karine.
C'était vraiment important de montrer à notre gouvernement, à notre président de la République, que Belfort n'abandonne jamais. Il va falloir qu'il prenne ses responsabilités et qu'il aide le site de Belfort dans la défense de l'emploi, mais aussi dans des projets de diversification qui ont été proposés par l'intersyndicale.
Après un entretien en préfecture, les syndicats seront reçus en début d'après-midi par la direction belfortaine.
Nicolas Willem, la mobilisation des salariés de General Electric à Belfort ou de GE, comme on dit, est en photo et vidéo sur francebleu.fr.
Nous sommes à 5 jours des européennes et rien ne dit que plus de 40% des inscrits iront voter, comme en 2009, année record d'abstention.
En France, ce sont les départements d'outre-mer qui votent le moins aux européennes et de loin, ce qui ne veut pas dire qu'ils se désintéressent forcément de l'Union européenne, Nicolas Ballu.
Non, mais tout de même, le taux d'abstention était de 83% en 2014. La Palme à la Guadeloupe, moins de 10% des gens sont allés voter. Le lien à l'Union européenne est parfois ambivalent ici sur le continent. Alors vous imaginez, dans les dom-toms, on se sent davantage caribéen ou océanien qu'européen, selon le député France Insoumise de La Réunion, Younous Omarji. Le sentiment d'appartenance existe tout de même, et que vous soyez de régions ultra-périphériques ou de pays et territoires d'outre-mer, vous avez un passeport européen. Les ultramarins se sont appropriés citoyenneté et passeport européen, dit la politologue Christiane Raffinanira. Vous.
Oui, ce sont les politiques européennes qui sont plus contestées.
Oui, parce que ces territoires ont souvent des problèmes économiques et sociaux qui sont nombreux. On pense à la Guyane, par exemple. L'Europe fait partie des coupables, avec, par exemple, les normes européennes imposées en matière d'agriculture ou d'habitat qui ne seraient pas adaptées. Reste que ce que l'Europe appelle les régions ultra-périphériques, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane, enfin la Guyane et la Réunion et Mayotte, concentrent à elles seules un cinquième des fonds structurels alloués à la France par l'Europe. Ils financent notamment les routes, les écoles ou les hôpitaux.
Merci Nicolas Ballu.
On a cherché, on a trouvé un pays européen qui s'intéresse aux élections européennes plus que la moyenne.
Un pays limitrophe de la France, un des pays fondateurs de l'Union européenne. C'est le Luxembourg. Dimanche, le Luxembourg va élire 6 députés européens dans un pays de 600 000 habitants. Pour mémoire, en France, c'est 79 eurodéputés. Visite au Grand-Duché, à Esch-sur-Alzette, Cécile Soulet.
Dans les rues d'Esch, la campagne des européennes est partout. Les photos des différents candidats sont à chaque coin de rue, sur des poteaux, des pancartes, en plus des traditionnels panneaux électoraux. L'intérêt n'est pas aussi fort que pour les élections locales, mais la plupart des électeurs sont mobilisés.
Bah oui, parce que c'est sans l'Europe, on est un petit peu rien, on va dire.
J'ai déjà voté, par correspondance.
Je trouve que c'est très important.
Né dans un pays fondateur de l'Union européenne, les Luxembourgeois restent très attachés à l'Europe, comme ce jeune restaurateur de 33 ans, Michael.
On était un tout petit pays. Avec l'Europe, bah, on a ouvert nos portes et les portes sont ouvertes à nous, sachant qu'on a une grande place économique au niveau bancaire. Si jamais on est tout seul, on n'est rien. Hein. Sans les frontaliers, on n'est rien, nous. Hein.
Sur les 10 listes qui se présentent aux européennes, au Luxembourg, aucune n'est vraiment eurosceptique. Mais le rejet de l'Europe ailleurs sur le continent inquiète cet autre luxembourgeois, Roland.
Ça me fait un peu peur parce qu'on a eu ça dans les années 30. C'était un grand intérêt pour toute l'Europe. Rester ensemble, d'éviter qu'il y aura des guerres.
Carla, de nationalité portugaise, habite au Luxembourg depuis 15 ans et c'est là qu'elle votera dimanche, mais elle espère une Europe plus sociale.
Il faut quand même changer quelques procédures pour que ça marche un peu mieux. Hein. Parce que ici au Luxembourg, on ne remarque pas, mais il y a beaucoup de gens qui subissent des pauvretés quand même. Hein.
Pas de risque d'abstention, en tout cas au Luxembourg dimanche, le vote est obligatoire.
Cécile Soulet de France Bleu Lorraine au Luxembourg qui vote dimanche comme la plupart des pays, mais le scrutin débute ce jeudi aux Pays-Bas, vendredi en Irlande et samedi en Lettonie, Malte et en Slovaquie.
Voilà un message pour les habitants des départements de 1 à 19, de l'Ain à la Corrèze.
C'est le dernier jour pour votre déclaration d'impôt. Passé ce délai, en principe, une majoration de 10% s'applique. L'échéance suivante, ce sera le 28 mai pour les départements 20 à 49. Et à partir de 50, c'est-à-dire la Manche, c'est le 4 juin.
On sait que les buralistes de 4 régions vont vendre des billets de train à titre expérimental à partir du mois de juin. Mais la diversification des activités a bien commencé sur fond de baisse de vente du tabac.
De la papeterie, des produits postaux, un rayon vin et même de l'épicerie. Voyez ce buraliste de Montjoire au nord de Toulouse. Le tabac ne représente plus que 50% de son chiffre d'affaires. C'est un buraliste multicasquette.
Alors, épicerie, bar tabac, on fait également la poste, on a un service également de développement de photos. On vend du gaz, les copies. On s'est rendu compte que le tabac diminuant, on a souhaité avoir des activités complémentaires, c'est-à-dire qu'on a installé une borne nickel pour ouvrir des comptes bancaires. Et ensuite, on a opté pour la livraison de colis avec Mondial Relais qui nous permet d'avoir une clientèle nouvelle et plus diversifiée. C'est un ensemble de petites choses qui fait qu'on arrive à gagner notre vie, à faire vivre 5 salariés plus 2 gérants. C'est un multiservice dans un milieu rural et donc ça nous permet de bien fonctionner, de bien tourner, quoi.
Alia Doukali de France Bleu Occitanie à la rencontre du buraliste de Haute-Garonne. L'année dernière, les ventes de cigarettes ont chuté de plus de 9%.
Il y a 24 500 buralistes en France aujourd'hui, c'est 10 000 de moins que dans les années 90.
13h10 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera un passage par Roland-Garros parce que le tournoi a commencé, même si les stars ne sont pas encore là. Mais avant, on revient sur cette légende de la F1 qui est mort à l'âge de 70 ans, l'Autrichien Niki Lauda, rescapé d'un terrible accident, c'était en 1976.
Et c'est une histoire ahurissante. 6 semaines après avoir reçu l'extrême onction sur son lit d'hôpital, il avait pris à la stupéfaction générale le départ du Grand Prix d'Italie, malgré sa souffrance et de graves lésions au visage, Guillaume Batin.
Niki Lauda, c'était le visage de la Formule 1. Brûlé par l'incendie de sa Ferrari en 76 sur le circuit du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, la casquette toujours vissée sur la tête, l'oreille droite en moins, le front et la joue greffés avec la peau de sa cuisse droite, transplanté d'un poumon et d'un rein, le triple champion du monde souffrait tous les jours. Celui qui était surnommé le robot sur les circuits a remporté 3 couronnes mondiales. En 1975 et 77 avec Ferrari, en 1984 chez McLaren avec Alain Prost comme coéquipier. Son autre passion, l'aviation, lui a fait vivre un deuxième enfer. Le 26 mai 1991, le Boeing 767 de la compagnie qui portait son nom s'écrase entre Bangkok et Vienne. Il y a 223 passagers à bord et aucun survivant. « Quand je risquais ma vie, c'était mon choix », disait-il, « là les gens sont morts dans un de mes avions, cela m'a détruit ». L'état de santé de l'Autrichien s'était dégradé l'été dernier pendant ses vacances à Ibiza, une infection pulmonaire qui aura finalement eu raison de lui.
Niki Lauda, mort à 70 ans, raconté par Guillaume Batin.
En football, on est à l'heure des pré-bagarres de Ligue 2 pour la montée en Ligue 1.
Les barrages. Les pré-barrages.
Mais les bagarres aussi.
On va pas se bagarrer, hein. Ça va bien se passer entre le Paris FC qui rencontre Lens ce soir.
Et Didier Deschamps annonce en début d'après-midi la liste des joueurs sélectionnés pour les 3 derniers matchs de la saison.
La Bolivie en amical le 2 juin, la Turquie et Andorre les 8 et 11 juin pour les qualifications à l'Euro 2020.
Ce n'est pas parce que Federer ou Nadal n'ont pas encore foulé la terre battue de Roland-Garros que le tournoi n'a pas commencé.
On découvre des joueurs lors des matchs de qualification comme Alexandre Muller, 22 ans, originaire de Poissy dans les Yvelines et 303e joueur mondial. Il a passé le premier tour hier, Cécilia Arbona.
Pour plusieurs spectateurs du cours numéro 6, le match était plié. Les plus réactifs avaient d'ailleurs les yeux rivés sur l'application de leur téléphone pour suivre une autre rencontre un peu plus loin. Quand soudain, Alexandre Muller a sauvé une balle de match.
Ouais, je monte au filet, je crois qu'il me passe long de ligne, je fais une petite volée amortie. Je sais pas si elle a réussi ou quoi, après je vais chercher, peut-être c'est mérité. Bah, c'est toujours plaisant de gagner des matchs comme ça en sauvant balle de match, donc je suis très content de m'en être sorti aujourd'hui.
Casquette blanche portée à l'envers, visière sur la nuque, le jeune homme blond aux yeux clairs et à la stature athlétique a su embarquer le public dans le 3e set.
C'est l'un où voir le plus gros tournoi du monde, nous les Français, c'est toujours un privilège de pouvoir jouer ici, donc on a toujours cette petite tension au début du match, mais après... Voilà, on arrive à se libérer un peu avec l'expérience. Maintenant, c'est la 3e fois que je joue ici.
Sous les yeux attendris de sa petite amie.
C'est super. Enfin, là, au 3e, c'était un peu mieux. Mais au début, franchement, j'étais assez déçue. J'étais la seule à l'encourager. Le public était un peu timide. Donc... Mais bon, à la fin, c'était très bien.
Avant de quitter le cours, Alexandre Muller a signé des autographes et posé pour des selfies.
Fais une photo avec ma fille, s'il vous plaît.
Merci.
C'est un bon espoir. Il y avait Thierry Champion dans les tribunes. Il doit peut-être compter sur lui peut-être pour la suite de sa carrière.
Demain, Alexandre Muller va défier une montagne, le Canadien Peter Polanski, 124e joueur mondial.
Les matchs de qualif à Roland-Garros, Cécilia Arbona.
On fête cette année les 70 ans de la mobilette, c'est pourquoi nous serons tout à l'heure avec un passionné des mobs qui a ouvert un atelier dans Lyon.
Qui a dit que la bleue ou la grise était démodée, que c'était un engin de vieux? Vous savez qu'il existe des chaînes YouTube 100% mobilette.
Il y a des chaînes de tours marquées.
Avec des motobécanes, des Solex et des Peugeot, et puis il y a les escrocs à mobilette.
Bah nous on roule en mobilette, et y a pas de honte à ça. Le scooter c'est la vedette, oui mais nous on aime pas ça. Pour promener les demoiselles, rien ne vaut la gabrielle. Pour aller bosser, pour aller gâcher et faire la tournée des petits bistrots, c'est bien plus michetot, bien plus rigolo. On préfère la mobilette. Et pour trimballer les copines, au ciné, à la piscine, pour jouer à Superman, t'as ta belle moto-bécane. Et quand tu n'as plus un copec, bah t'as toujours ta moto-bec. Et le charme divin de ce bel engin qui fume et qui pète. Jolie promenade dans les pétarades et le bruit des mobilettes.
Jolie promenade dans les pétarades et le bruit des mobilettes.
Le trio des escrocs et mobilettes avant d'aller dans un atelier de mob dans Lyon dans un instant.
Et avant de nous raconter vos aventures à l'arrière d'une mobilette il y a longtemps, Frédéric, Lyon et l'Auvergne dans la foulée avec une jeune chef d'entreprise qui fait dans les couches pour bébé. Il sera aussi question d'un chien noir en Bretagne après la météo.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.